Vous écoutez France Culture.
D'abord, que je vous dise qu'on ne risque rien à livrer le secret professionnel, puisque on ne livre pas le moyen de s'en servir.
Secret professionnel par Charles Danzy.
I know what it is to be young. But you, you don't know what it is to be old.
Il y a parfois un petit homme à l'intérieur des grands hommes. Il est même surprenant de voir comment de très nombreux de ces grands hommes ont un petit homme en eux. Il sort parfois avec des moments d'une mesquinerie étonnante. On peut voir ça dans le général de Gaulle, dans le président Roosevelt, dans Louis XIV, dans Frédéric II de Prusse, dans Margaret Thatcher qui était si contente quand la dit un homme. Enfin, ça semble universel et donne envie de parodier le vers de Victor Hugo dans Océano Nox et de dire « Oh, combien de nains dans combien de capitaines !» À côté des grands hommes, qui ne sont souvent que des politiciens flagornés ou des généraux ayant un peu traîné le sabre, pour reprendre une autre expression du même Victor Hugo, il y a les gros hommes. Ce sont souvent des artistes délicats. En effet, il y a souvent à l'intérieur de ces gros hommes un homme preste. On est toujours surpris, et sans doute ne devrait-on pas l'être, puisqu'ils sont si fréquemment comme ça, par la légèreté bondissante des gros. Qu'on l'ait aimé ou non, Raymond Devos l'illustrait très bien. Luciano Pavarotti également, pour lui non pas physiquement mais vocalement, ce boucher contenait un rossignol. Un cinéaste très gros, si gros qu'il a fini en chaise roulante pour porter son corps qu'il aimait tant farcir dans les meilleurs restaurants de Paris, était très preste cinématographiquement, c'était Orson Welles. Les éditions Carlotta, publiant en DVD la version restaurée de son Othello, qui a remporté le Grand Prix au Festival de Cannes en 1952. Quel est le secret professionnel de la prestesse d'Orson Welles? Je reçois pour en parler Eric Neuhoff, qui publie son dictionnaire chic du cinéma chez Écriture et L'amour sur un plateau à Lerne. Eric Neuhoff, je ne vais pas citer l'un des deux livres que je viens de mentionner, mais un livre de vous plus ancien et je crois un peu moins connu, c'est La séance du mercredi à 14h, où vous dites d'Orson Welles, je vous cite, « La légende l'a dévoré de son vivant, il boit trop, il rit beaucoup, par instants le regard se perd dans le vague, noyé de quelques reflets ». Vous l'avez rencontré?
Non, jamais, mais j'ai regardé ses interviews, puis je suivais tout ce qu'il faisait.
Est-ce que pour vous c'était un cinéaste de votre jeunesse, Welles, ou c'est...
Oh non, un cinéaste tout court, un pur génie qui n'a pas donné ce qu'il aurait pu donner pour des raisons un peu bizarres.
Quelles raisons?
L'autodestruction, peut-être aussi la paresse, la mythomanie et le fait que les studios ne lui ont pas facilité la tâche, mais dans un sens, ça l'arrangeait bien de jouer les maudits aussi.
On va en reparler. En plus des restaurants français, Orson Welles aimait Shakespeare, avec la même gourmandise d'ailleurs. J'ai trouvé Eric Neuhoff dans une interview avec Dick Cavett, l'animateur de télévision américain des années 70. Il dit « J'ai fui l'éducation ». Il a donc appris son Shakespeare tout seul.
Ben, la légende veut même qu'il ait appris à lire dans Shakespeare et que son premier livre ait été « Le songe d'une nuit d'été ». Mais il y a beaucoup de légendes qui courent autour d'Orson Welles. Et je ne suis pas sûr qu'à 4 ans, il lisait Shakespeare dans le texte.
Mais il a mis en scène, je crois, du Shakespeare très jeune, non ?
Ah oui, il parlait le Shakespeare couramment. C'était sa langue maternelle. Et à l'école, il avait déjà mis en scène Jules César. Et à 20 ans, le fameux Macbeth noir au théâtre à Harlem, où tous les acteurs étaient noirs, et ça l'avait lancé, ça avait été un gros succès.
Je crois que c'était sa première mise en scène de théâtre.
Oui, la première vraie mise en scène. À l'école, c'était du patronage un petit peu, mais il avait joué aussi une fois dans une pièce un spectre dans je ne sais plus quelle
dans
pièce.
Un Shakespeare ?
Oui.
Avec mon meilleur souvenir, Sagan fait un joli portrait de lui. Elle dit « Il mangea comme un loup, il rit comme un ogre, il marcha de long en large et il parla de Shakespeare ». Et il faisait ça très bien en général dans ses interviews, il en parle souvent.
Il pouvait tout d'un coup se lancer dans une tirade de Shakespeare interminable avec sa voix qui n'appartenait qu'à lui. Et Shakespeare était un peu ses béquilles, hein, parce qu'il avait beaucoup de mal à se déplacer. Et Shakespeare lui servait à relancer la conversation et à tenir debout, j'imagine, à la fin.
Mais quand il a commencé à s'occuper de Shakespeare, en tout cas au cinéma, c'était une chose un peu vieillotte, non ? C'était les mises en... c'était les Laurence Olivier, c'était oui, pas ouais. très conventionnel, le Shakespeare de cinéma ?
Oui, mais alors lui, justement, on faisait ça de façon non conventionnelle. Ça. On n'a jamais pu l'accuser d'avoir fait du théâtre filmé. Et puis, il y avait sa passion, ce Shakespeare qui lui coulait dans le sang et qui le faisait à la fois critiquer de l'institution hollywoodienne et de l'académisme shakespearien. Il était en porte-à-faux. Macbeth, bon, c'est un film qui s'était passé convenablement.
Qui date de quand ?
Il l'avait filmé en 21 jours en 1947. Donc c'est le contraire d'Othello dont on va parler.
Donc il était attaqué à la fois par les shakespeariens et les metteurs en scène qui voulaient des... Enfin, ou les studios, ou les gens de cinéma qui voulaient des choses plus classiques ?
Oui, à la fois. Puis... c'était sa façon à lui de faire un pied de nez, se lancer là-dedans, parce que dans Othello, il a toujours dit que le rôle le plus important, le plus intéressant, c'était Iago, mais il l'a laissé à l'acteur irlandais Michael McLiamoir, je ne sais pas comment on prononce, et il sait très bien que c'est un rôle pour lui, mais il se sacrifie, entre guillemets.
Pourquoi ?
Je pense qu'il avait trop de choses à faire sur ce tournage, trouver de l'argent, mettre en scène, jouer. Et c'est quand même un tournage qui a duré plus de 3 ans, de 1948 à 51. Et on ne parle même pas du montage qui lui a pris une bonne année entière.
Ouais. Il a toujours des points de vue originaux sur Shakespeare et Othello. Il y a deux choses, j'ai trouvé deux choses qu'il dit à propos d'Othello. Il dit que si Shakespeare a fait d'Othello en général, c'est pour qu'on le prenne au sérieux, car le public, je cite, ne prend aucun personnage au sérieux, à moins qu'il ne soit quelqu'un d'important. Et d'autre part, il dit dans une autre interview, de façon très comme ça abrupte, Othello, incompréhension totale de ce qu'est une femme.
Ouais. Bah d'ailleurs, c'est peut-être pour ça qu'il a pris Suzanne Cloutier finalement pour jouer Desdemone, qui est quand même pas l'actrice la plus sexy ni la plus douée. Mais rien que ça, déjà le rôle de Desdemone a été attribué à un tas de filles, à commencer par sa fiancée italienne qui l'a débarqué au bout de quelques jours.
Padovani.
Oui, il a même été question de notre Cécile Aubry nationale.
Alors il l'a contesté ça après dans une interview, il l'a dit...
C'est très compliqué parce qu'il y a tout et le contraire de tout à propos d'Othello. Donc chacun a sa version. Il y a eu aussi Betsy Blair. C'est une actrice qui avait été la femme de Jane Kelly, qui jouait dans Le Cri d'Antonioni. Donc peut-être aussi c'est la filière italienne du moment où il essayait de trouver de l'argent et de monter des films avec eux.
Othello vient à quel moment dans son œuvre ? Il est de 52, en tout cas il a été montré en 52. Il vient après quel film ?
Ça, je ne pourrais pas vous dire, hélas, mais je sais que c'était le moment où il a compris que c'était fini, lui, le travail avec les studios hollywoodiens. C'est sa première production, Mercury. Et c'était de l'argent italien d'un producteur un peu véreux, ce qui est un pléonasme, et qui a fait faillite pratiquement dès le début du tournage, ce qui explique tous les trucs, les trouvailles que Orson Welles a été obligé de faire, à la fois en filmant et en montant le film.
Oui, alors j'ai cherché cette production parce que le film, je crois, a mis plus de 2 ans entre le début du tournage et la fin.
Oui, oui, et puis ça s'est passé dans minimum 3 lieux différents, Torcello, Mogador et Essaouira, où s'est passée la majorité du tournage, et aussi des scènes au Portugal.
Mais en studio aussi, je crois, en partie.
Un petit peu en studio, mais c'est surtout, comme Wells était toujours à court d'argent, il disparaissait pour aller jouer dans les films des autres, entre autres un film d'Attaway qui s'appelle La Rose Noire et Le Troisième Homme, et ses cachets lui permettaient de reprendre le tournage, mais entre-temps, les acteurs n'étaient plus disponibles, les lieux n'étaient plus les mêmes, donc ça l'obligeait à faire les pieds au mur et à trouver sans arrêt des astuces pour qu'on ne voit pas trop les faux raccords.
Dans un livre très amusant qui vient de paraître aux États-Unis qui s'appelle My Lunches with Orson de Jacques Lhomme, et qui sont des entretiens inédits avec Wells, qui doivent d'ailleurs être traduits en France l'an prochain, en 2015, chez Robert Laffont, je crois. Il dit que c'est à cette époque et à cause de ce film qu'a commencé la légende de Orson Welles, incapable de finir un film. Regardez-le, même pour ses propres films, il lui faut 3 ans pour les finir.
Ouais, mais c'est pas complètement faux, parce que dans ses fameuses conversations avec Jack Lomb, là, au restaurant, c'est la fin de sa vie, et il essaye, en tout cas il parle sans arrêt, de monter le Roi Lear. Et on voit que chaque fois qu'il y a une opportunité, effectivement, il se débrouille plus ou moins pour faire capoter. Il n'y a pas assez d'argent, il veut pas tourner en Italie, il veut pas tourner à Paris. Il y a toujours un prétexte qui est peut-être aussi la peur qui a sans doute gouverné la vie entière de Wells.
C'est intéressant, Eric Neuf, ce que vous dites, car je me demande, dites-moi ce que vous en pensez, si un des drames de Wells n'est pas d'avoir commencé trop jeune, à 20 ans, et d'avoir eu un succès trop jeune, car il est encore plus difficile, je crois, de supporter un succès quand on est très jeune qu'un insuccès.
Et oui, commencer au cinéma par Citizen Kane à 20 ans, c'est vrai qu'ensuite, c'est difficile de surpasser ça. Et il s'était un petit peu, je pense, endormi sur ses lauriers, parce que le film suivant, La Splendeur des Amberson, il s'est quand même débrouillé pour disparaître au moment du montage, aller au Brésil tourner un pseudo-documentaire et ensuite accuser les studios d'avoir massacré son film. Ce qui est peut-être en partie vrai, mais vaut mieux être là quand le montage est en cours.
Alors, le producteur dont vous parliez tout à l'heure, le producteur italien un peu bizarre, j'étais un peu cherché qui c'était un certain monsieur Scalera, c'était deux frères au départ, et qui avait financé des films très nombreux, d'ailleurs depuis les années 20. Il y avait le premier long-métrage de Rossellini, le Bateau Blanc, mais à part ça, c'était beaucoup de Christian Jacques et de films populaires italiens. Et ils ont d'ailleurs été mis en liquidation au moment où ils s'étaient proposés de financer le Othello.
Ah oui, c'est pour ça que le tournage a démarré un peu de façon brinque-ballante, que Wells attendait les costumes qui, visiblement, n'avaient même pas été fabriqués à Rome, qui ne sont évidemment jamais arrivés. Et ça explique ce qu'il a fait, la fameuse scène du bain turc. Il s'est dit, puisqu'on n'a pas de costume, quel est l'endroit où on peut rassembler des gens sans se ruiner en costume? Il dit, sauf s'ils sont deux, c'est un lit, s'ils sont plusieurs, c'est dans un bain turc. Et c'était tourné donc à Essaouira, et la vapeur était de l'encens qu'ils étaient allés récupérer à l'église voisine. Et c'était tourné dans le marché aux poissons, donc, paraît-il, dans une odeur absolument pestilentielle.
Mais il avait une bonne équipe quand même dans cet Othello, car cette scène a été, les décors ont été faits, je crois, par Alexandre Tronel.
Oui.
Il avait aussi un très bon musicien qui était Francesco Lavignino, qui était le même qui avait été sur Falstaff, et la musique du Othello est très belle.
Oui, très belle, mais alors il y a tout un tas de théories autour de la musique, comme quoi la musique n'aurait pas été celle-là, que la restauration là, qu'on va voir, enfin, qui est celle de 92, plus ou moins, ne respecte pas la bande originale du premier film. Qu'on ne s'est pas donné la peine d'aller chercher les partitions du musicien en question, qu'un chef d'orchestre de Chicago a écouté la musique de l'époque et l'a rejouée à l'oreille, que le bruit des vagues qu'on entend, ça a été enregistré sur le lac Michigan, tout un tas d'histoires comme ça, et qui sont un petit peu bizarres, mais ça prouve que les fanatiques et les fétichistes de Wells sont toujours sur le qui-vive, et même quand on restaure, ça permet de voir ce film à un tas de gens, sont là en train de pinailler, de dire qu'on entend trop bien les dialogues.
Nous allons maintenant entendre Orson Welles. Il parle entre autres de la France et de Paris. C'est extrait d'Interactualité le 15 février 1973 et c'est suivi d'un Dracula qu'Orson Welles a réalisé pour la radio et qu'adore notre réalisatrice Clotilde Pivin.
Entre Paris et Orson Welles, n'y a-t-il pas un lien d'amour?
Ah oui, naturellement. Vous connaissez le vieux expression que tous les bons Américains, when they die, they go to Paris, you know?
Quand ils meurent, ils vont à Paris.
Exactement, oui. C'est pour la France, peut-être plus que Paris, mais c'est France que j'adore.
Où en est Don Quichotte?
Ah, Don Quichotte? Maintenant, il faut que le pauvre Don Quichotte, que c'est déjà terminé depuis des années, reste encore à cause de Man from La Mancha, qui a tué le film commercialement pour quelques années. Vous connaissez le titre de Don Quichotte? C'est « When are you going to finish Don Quixote? »
Quand allez-vous finir Don Quichotte?
Ça, c'est le titre, oui. Parce qu'en effet, c'est impossible de finir un film sur Don Quichotte.
Et Orson Welles, comédien?
Oh, je suis un comédien dans ce film.
Mais allez-vous tourner avec d'autres metteurs en scène actuellement?
Oui, pour gagner le beefsteak. Et pas seulement le beefsteak. En général, c'est pour gagner le beefsteak pour les autres qui travaillent avec moi dans le film que je fasse. Mais aussi, il faut dire franchement que je fasse quelques films juste pour vivre.
Et vous aimez bien vivre, Orson Welles?
Non. Si j'avais le temps, oui. Si j'avais une autre vie d'être un bon viveur, ben je trouve quelques moments dans quelques mois, quelques ans d'être un bon viveur. Mais en général, je suis un travailleur.
Mr. Orson Welles, ladies and gentlemen, what are your favorite stories? If there is one you're particularly fond of and would like to hear on the air, will you please write me about it? Next week, the Mercury Theater is going to tell you Robert Louis Stevenson's exciting yarn about pirates and the sea, Treasure Island. Until then, just in case Count Dracula has left you a little apprehensive, one word of comfort. When you go to bed tonight, don't worry. Put out the lights and go to sleep. It's all right. You can rest peacefully. That's just a sound effect. There. Over there in the shadow, see? It's nothing. Nothing at all. Nothing at all. I think it's nothing. But always remember, ladies and gentlemen, there are werewolves. There are vampires. Such things do exist.
Alors, les rapports avec la France d'Orson Welles étaient à la fois enthousiastes, je crois, et un peu compliqués. En cherchant, j'ai trouvé que Citizen Kane, qui date de 1941, qui donc n'a pas été vu en France, évidemment, au moment de sa sortie, a été attaqué à la Libération par personne moins que Sartre. En 1945, dans L'Écran français, il l'avait vu aux États-Unis. Il dit « c'est une attaque courageuse contre Hearst, mais pas un exemple à suivre. C'est un exemple du drame de l'intelligentsia américaine qui est sans racines et totalement coupée des masses.
» Oui, mais peut-être que Sartre était un bon philosophe, mais comme critique de cinéma. Et je ne suis pas sûr en plus que Sartre parlait couramment américain.
Cela dit, il a été aussi attaqué par Borges, car dans la revue Sourd, Borges, j'ai trouvé quelque chose de plus fin, mais il dit « J'ose prévoir que Citizen Kane durera comme certains films de Griffith, dont personne ne nie la valeur historique, mais que personne ne se résigne à revoir. Il souffre de gigantisme, de pédanterie et d'ennui. Il n'est pas intelligent, il est génial, dans le sens le plus sombre et le plus allemand du mot. » Alors, dites-moi, quels sont les rapports particuliers que Welles entretenait avec la France? Car malgré tout, même si je dis que Sartre l'a attaqué, il a été beaucoup défendu par les Français.
Il est divinisé, oui. La critique française adore Welles. On ne peut pas faire un hit parade des 10 meilleurs films du monde sans que Citizen Kane arrive en tête, ce qui est assez justifié. Non, mais il a beaucoup vécu en France à partir du moment où il a su que les États-Unis ne lui permettraient plus de tourner comme il l'entendait.
C'est-à-dire vers quelle époque?
Au moment d'Othello, ça a été le signe. L'Europe a été son refuge. Et il a été un petit peu déçu aussi, hein, puisqu'il s'imaginait toujours Monts et Merveilles. Il y a dans le livre de Jacques Lhomme tout un tas de projets mirobolants. La personne n'est pas citée, mais visiblement, il y a un directeur des programmes d'une chaîne de télévision qui lui a fait miroiter Monts et Merveilles et ça ne donne rien. Jack Lang aussi a l'air de l'avoir un peu mené en bateau. Mais à leur décharge, Orson Welles devait être aussi difficile à manipuler et être toujours ailleurs et reculer un peu devant l'obstacle, hein, comme les chevaux. Hein. On sent que les prières exaucées n'étaient pas vraiment son truc à partir d'un certain moment. Mais il a beaucoup tourné et il a été aussi très, très récompensé en France. Hein. Le Festival de Cannes lui a donné en 1966 un autre prix pour son Falstaff. Il a eu la Légion d'honneur, tout un tas de choses. il n'avait pas beaucoup à se plaindre. Et puis même à Los Angeles, à la fin, il allait déjeuner tous les jours dans un restaurant français, Ma Maison, tenu par le fils de Claude Terrail, qui était un restaurant tellement snob que son numéro était sur liste rouge.
Mais il a vécu en France ?
Ah oui, bah oui, il a été hébergé par Louise de Villemorin longtemps.
À Verrières ?
Oui, à Verrières, oui. Et je crois même qu'ils ont eu une histoire ensemble. Il a été très, très copain avec Jeanne Moreau. Il a tourné aussi...
Il a tourné avec Jeanne Moreau.
Oui, dont le Falstaff et aussi le Une histoire immortelle. Et le procès a été tourné dans la gare d'Orsay. Donc, je suppose, avec beaucoup d'aide française. Et il aimait beaucoup la France. Oui. D'ailleurs, une des légendes veut que quand il venait en France, il prenait le Concorde et qu'à cause de sa corpulence, on était obligé de scier le... l'accoudoir pour qu'il puisse s'asseoir.
Dites-moi, vous dites qu'il n'avait pas de motif de se plaindre, mais quand même, il se plaignait car il raconte qu'au moment du Falstaff, pour lequel il a eu, je crois que c'était le prix du jury en 1966.
Qu'on a pratiquement créé pour lui à l'époque.
Oui, mais on l'a créé pour une raison, dit-il, c'est que il dit que Lelouch a eu la Palme d'Or contre lui pour Un homme et une femme. Ex aequo avec qui ?
Un autre film italien qui s'appelle Mesdames et Messieurs de Pietro Germi.
Ah, c'était
un film
mal,
à sketch qui était très, très... Surtout le premier sketch, excellent, sur un rythme pétaradant.
Ah oui ? Ouais.
Et donc, Orson Welles a eu un petit accessi après.
Et voilà, c'est ça. Donc, Lelouch a eu la Palme d'Or. Et d'après ce que raconte Welles dans ses entretiens avec Peter Bogdanovich, il dit que quand on a annoncé la Palme d'Or à Lelouch, il y a eu des huées de 10 minutes. Et quand on a annoncé le prix spécial de rattrapage pour lui, il y a eu une ovation de 15 minutes. C'est vrai, ça ?
Mais là, je me suis un petit peu renseigné auprès des gens du festival. Non, il invente ça.
Il invente.
Oui, oui.
Et pour le prix du Othello dont nous parlions, qui était déjà le grand prix du jury.
C'était l'équivalent de la Palme d'Or, mais ça s'appelait le grand prix du festival à l'époque.
Et alors là, il dit, c'est un désavantage d'être américain à Cannes, il n'aime pas donner la Palme d'Or aux Américains, ce qui me paraît un peu extravagant, non ?
C'est assez rare. Hein, quand
même. C'est assez rare.
Ouais.
Et il continue... Je l'ai expérimenté plusieurs fois. La fois la plus notable a été pour mon Othello en 52. Je ne savais pas si j'allais avoir le prix. La façon dont je l'ai appris, dit-il, et quand quelqu'un est venu dans ma chambre au Carlton en disant désespéré, nous ne pouvons trouver personne qui connaisse l'hymne national marocain, car le film est enregistré comme marocain.
Oui, on ne sait pas trop pourquoi. Il disait que c'était un pavillon de complaisance et du coup, un orchestre a joué un vaguer oriental comme dans un restaurant de couscous avant la remise.
Et sa grande période de triomphe en France, au fond, est-ce que... Je crois que, donc, comme on le disait au départ, après, si, la montée de Citizen Kane a été assez lente, car en fait, il a été montré en France en 1945, mais son grand succès est un peu plus tardif, non, son succès d'estime et de...
Il était devenu un personnage, hein, surtout avec sa taille, ses kilos énormes et puis les gens l'aimaient bien, connaissaient sa voix, aimaient l'entendre parler de cinéma, et il était vraiment le cinéaste pur pour toute une génération qui a découvert le cinéma américain à la Libération.
Ce qui est tout le contraire, je crois, de ce qui s'est passé aux États-Unis, où les gens qui ont notre âge maintenant se souviennent d'Orson Welles comme un monsieur qui faisait des publicités pour les pizzas, parce que pour gagner de l'argent, il faisait
des pizzas. Pour les mauvais vins californiens de Paul Masson. Et il n'a pas pu recommencer. Ce qu'on apprend dans le livre de Jaglom, c'est qu'il a tourné en catimini une publicité pour du cognac français qui devait passer nulle part. Et un des commanditaires américains est allé au Japon, est tombé sur la publicité en question et a retiré son offre. Mais Welles était toujours là en train de se plaindre, il faut dire.
D'ailleurs, dans d'autres entretiens qui ont été publiés par les presses du Mississippi en 2002, il dit... qu'il y a eu une vente aux enchères de certains objets de cinéma. Et je le cite, Steven Spielberg a payé 60 000 $ pour le traîneau de Rosebud. Ce n'est pas qu'il en paierait autant pour me demander d'écrire un script.
Mais je croyais qu'il avait brûlé le traîneau en question.
Eh bien là, donc c'est encore une légende.
Sûrement, oui. Non, il y a une chose intéressante, c'est qu'il avait écrit des romans, dont un premier roman qui avait été écrit en anglais, traduit par Maurice Bessy, qui n'en avait même plus une seule copie, qui s'appelait Une grosse légume, qui était sortie chez Gallimard et dont il n'y a plus aucune trace nulle part.
Vous l'avez lu ?
Mais non, c'est absolument introuvable. J'ai lu Arcadin,
c'est pas bon, hein.
qui n'est pas terrible, mais qui est aussi traduit par Maurice Bessy chez Gallimard. Donc, Maurice Bessy, qui était une des éminences grises du Festival de Cannes, d'ailleurs, il faudrait retrouver ça dans les caves de chez Gallimard, si elles existent encore. Si...
Je crois que le Arcadine a été réédité et publié dans un coffret il y a 2 ou 3 ans où on rééditait Arcadine et où le livre était vendu en même temps que le DVD. Moi, c'est comme ça que je l'ai lu.
Non, moi, je l'avais dans la version sortie chez Ramsay il y a 25 ans à peu près. Mais effectivement, ça n'est pas un très, très bon livre. C'est amusant quand on compare avec le film. Mais Arcadine est un film qui a 6 ou 7 versions différentes, hein, selon les pays, les dates de sortie. Donc, on ne sait jamais si on est en train de voir le bon. Ce qui rajoute aussi à l'histoire, puisque c'est un peu un mythomane ou un amnésique.
Il a aussi joué beaucoup en France, pour revenir à ses rapports avec la France. Il a joué dans des films français, je crois qu'il a joué dans Guitry.
Oui, il a joué dans le film là sur Paris brûle-t-il. Il a joué dans un navet supersonique de Chabrol, la décade prodigieuse.
Avec, il faisait quoi?
Il faisait une espèce de patriarche. Là, c'était dans une maison à la campagne. Il y avait un grand dîner. Il y avait Anthony Perkins, Stéphane Audran. Je crois qu'il prenait tout ce qu'on lui proposait. Hein. C'est le dernier film qu'il ait fait, c'est F for Fake, Vérité et mensonge, qui est tourné pratiquement... pour moitié en France, d'ailleurs.
Ah, c'est tourné en France.
Ouais, beaucoup. Ouais.
C'était inspiré de la vie d'un faussaire. J'ai oublié Elmire de dire que c'était... Si Versailles m'était compté.
Oui, voilà. Ouais.
C'était un faussaire.
Un faussaire qui s'appelait Elmire de Horry. Et aussi sur Fernand Legros, le galeriste, entre guillemets. Et c'était toute une théorie un peu lourdingue, où on voyait son égérie du moment, la Yougoslave Oja Kodar, traverser les Champs-Élysées au ralenti derrière ses voiles. C'était un petit peu triste à voir. Et le film a été un bide terrible, mais je crois que ça n'était pas une injustice. Non.
Est-ce que vous diriez, pour finir, Éric Nehoff, que l'œuvre d'Orson Welles, c'est évidemment les films qu'on a vus et dont nous venons de parler, en particulier cet Othello, mais aussi, au fond, tous ces projets rêvés qui n'ont pas pu aboutir et dont il a parlé et qui font de lui un des plus brillants causeurs qu'on ait
vu. Ah oui, c'est le Truman Capote du cinéma. Là. Il est à la fois intelligent, drôle, d'une méchanceté sans nom et pas tellement aigri, visiblement, malgré son physique et sa situation financière. Et j'aime bien l'idée qu'on l'ait retrouvé mort un matin chez lui avec sa machine à écrire sur les genoux en train de taper le script auquel il rêvait.
Dans My Lunch is with Orson, ses conversations avec Henry Jaglom, Orson Welles parle très élogieusement de Charlton, le grand acteur et le réalisateur de la merveilleuse Nuit du chasseur. Il dit « Lawton était un petit garçon de 14 ans, totalement immature. Ce qui se passe sans doute, c'est que seuls les hommes simples sont uniformes. Ils sont ce qu'ils sont et rien d'autre. Les hommes intéressants sont doubles, triples ou davantage. Ce qui les rend mieux qu'intéressants, créatifs, et peut-être parfois destructeurs, ce sont les conflits entre leurs multiples sensibilités. Cela ne veut pas dire que l'essentiel serait dans un trait de caractère caché, il est sûrement dans la combinaison du tout. C'est ce que veut dire Welles, je crois, dans Citizen Kane, où à mon sens, on s'arrête un peu trop facilement sur le Rosebud. Rosebud, vous savez, le dernier mot que prononce l'entrepreneur Kane dans le film, et l'avant-dernière image montre que c'était le nom de son traîneau d'enfant. L'avant-dernière. Welles dément l'importance de ce Rosebud et refoule le mélodrame psychologique en donnant la dernière image au panneau qui se trouve à l'entrée du domaine de Kane, No Trespassing. Interdiction d'entrer dans la vie de cet homme, bien sûr, mais aussi dans les interprétations symboliques. Cela révèle tout de suite leur platitude. C'était Secret Professionnel, le 129e. La semaine prochaine, je parlerai du secret professionnel des Assises internationales du roman. Réalisation Clotilde Pivin, attaché d'émission Daphné Abgral, prise de son Manu Couturier, recherche INA Linda Simon. Dans un instant, Ville Monde.